C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on vous amène dans un octogone sans règles et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Qui d'autre ? Salut Thibaut, comment ça va ?
Ça va et toi ? T'as fait des pompes ?
J'ai fait du sport là avant de venir histoire de faire le poids face à B2O quoi. J'ai essayé de gonfler un peu, pris des protes. J'ai encore du taf.
Sujet lourd ce matin puisqu'on va parler de ce clash entre Booba et les influenceurs et plus globalement on va essayer de tirer la bobine, essayer de vous expliquer qu'est-ce qui se passe, hein, pourquoi on en entend autant parler et puis qu'est-ce qui se joue derrière, qu'est-ce que c'est l'influence marketing aujourd'hui puis espérons qu'est-ce que ça sera celle de demain.
Bah vous avez forcément entendu parler de ce joyeux bordel B2O qui renonce jamais à du buzz ou à de la pub gratuite a décidé depuis quelques mois de devenir le justicier, le Zorro, le Robin des Bois, je dirais, de l'influence marketing. Il a pris en grippe avec ses 5,7 millions de followers sur Twitter des stars de l'influence marketing et de la télé-réalité. Et il essaye de sortir des scandales qui seraient liés à tout un système autour de leur influence. Donc, que se passe-t-il vraiment de ce côté de ce clash ? On va essayer d'aller gratter un petit peu, sachant que depuis, beaucoup d'autres choses se sont passées, parce que ça, c'était au printemps dernier et ça a continué sur tout l'été. Aujourd'hui, il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes, des dossiers de presse comme Libération qui sont sortis, et même un reportage de complément d'enquête, la célèbre émission d'investigation. Donc, on a essayé de regarder tout ça, lire un peu tout ça et vous faire un peu un compte-rendu de ce beau storytelling et d'en tirer quelques conclusions.
Oui, c'était inattendu parce que Booba, on l'a vu évidemment sur bien des registres, souvent évidemment dans son cœur d'industrie avec sa tonalité à lui très clivante. Mais là, voilà Tipa que depuis mai, le duc de Boulogne a décidé de s'attaquer à carrément un pan d'industrie, l'influence marketing. Et c'est très intéressant ce qui se passe et surtout, ça libère la parole. Hein, donc, Booba en lanceur d'alerte, on va dire, façon clash de rap.
Ouais, moi je pense qu'il était un peu las, tu vois, de chercher des rappeurs à corriger sur les réseaux sociaux. Il s'est dit qui est-ce qui fait ma taille sur les réseaux. Il s'est dit je vais aller chercher les plus gros influenceurs marketing. Tu sais, il y a un truc très façon clash de rap dans sa manière de faire. Il se dit à la base, je veux être le boss des rappeurs. Il faut que je clash les mecs qui vendent le plus de disques. Aujourd'hui, je veux être le boss sur les réseaux. Il faut que je clash les mecs qui ont le plus de fans sur les réseaux. Et qui, en plus, j'ai l'impression, font du sale boulot, quoi.
Voilà, avec, évidemment, en ligne de mire, vous n'avez pas pu rater cette histoire, une dame qui s'appelle Magali Berda. On va revenir sur cette dame-là. Elle est à la tête d'une agence d'influence marketing qui s'occupe principalement des personnalités sorties de la télé-réalité. Et finalement, c'est vraiment ça que Booba, je pense, attaque aujourd'hui, plus que l'influence marketing. Spécifiquement, on va dire, c'est cette influence un peu bling-bling, un peu TF1, quoi.
Il a commencé avec un ancien ami à lui qui s'appelle Marc Blatta, hein, qui est un influenceur justement passé un peu par tout ça, et il lui a reproché justement de promouvoir un projet de NFT qui serait une escroquerie totale. Et lui, c'est vraiment ça, il a essayé d'aller débusquer du coup ces stars de la réalité qui, d'après lui, surfent sur le dropshipping, des arnaques de comptes CPF aussi, ou de la publicité pour du trading boursier ou de la crypto-monnaie qui serait des fakes, ou même parfois de la publicité pour des paris sportifs en mode, tu sais, non mais il n'y a aucune chance que vous perdiez de l'argent, allez vous inscrire sur cette plateforme. Donc ça, c'était dans un premier pas. Et puis dans un deuxième temps, il est allé, comme tu le disais là, chercher Magali Berda, qui est un peu la boss du game en fait, hein, de son côté à elle, de l'influence marketing autour de ses personnalités sorties de la télé-réalité. Son agence Shona Events, juste pour replacer un peu le contexte, dans le documentaire complément d'enquête, on parle de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires,
hein,
pour 60 employés. Donc c'est quand même faramineux.
Ouais, sans doute l'un des leaders français de l'influence marketing. Alors après, on verra effectivement que cette terminologie influence marketing, elle englobe beaucoup de choses, dont ses personnalités issues de la télé-réalité. Et clairement, oui, Booba est allé au front, allé à la baston avec cette dame qui s'appelle Magali Berda. on va être honnête, hein, il s'est acharné sur elle pour montrer aussi qu'elle était à la tête d'un système. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'il ne s'est pas pris à cette target pour rien, hein, pas juste parce que sa tête ne lui revenait pas, mais aussi parce que, selon Booba, eh bien, il y a tout un système très pyramidal qui a été organisé, dont Magali Berda est l'une des instigatrices.
Hein. Ouais, des pierres angulaires, je dirais. Elle est un peu la chef d'orchestre de tout ça. On voit d'ailleurs aussi dans le reportage complément d'enquête que c'est quelqu'un qui est en fait arrivé là un peu par hasard, hein, qui s'est mis à côtoyer des stars de la télé-réalité, qui sortaient de télé-réalité et qui savaient pas très bien négocier avec des marques leurs contrats. Souvent, elle raconte elle-même, ils faisaient la promotion pour des pulls, la marque leur offrait un pull. Et puis elle leur a dit un jour, mais en fait, t'as besoin d'un pull ? Non ? Bon, bah viens, on va négocier, peut-être je vais aller t'aider, on va aller négocier un billet plutôt. Et c'est comme ça que petit à petit, elle est rentrée avec Shauna Evans, une cinquante ou centaine d'anciennes personnalités de la télé-réalité. Donc ça, c'est être extrêmement intéressant. Je trouve que dans le rapport avec Booba aussi, là, qu'on peut déjà tirer, c'est que, effectivement, tu as raison, il y a toute une partie assez violente, hein, façon, comme je disais, un peu clash dans le rap de Booba, avec aussi une communauté qui peut être extrêmement violente et
virulente.
Presque, c'est du harcèlement aussi. Donc, elle a porté plainte contre Booba. Booba a très vite porté plainte aussi contre elle. Pour justement usage de faux, pour vente de produits faux, et il a essayé de récupérer des témoignages. Donc en fait, ce qu'il a mis en place, déjà assez marrant, c'est un hashtag de marque, hein, on pourrait appeler ça comme ça, le hashtag influx voleur, pour essayer de récupérer des témoignages de personnes qui auraient travaillé avec Shauna Evans ou avec Magali Berda. Il y a une boîte mail aussi qui a été mise en place, et c'est plus de 300 déclarations d'après son avocat qui auraient été récoltées et qui seraient présentées à la répression des fraudes pour du coup une plainte contre X, mais qui vise directement ces pratiques-là. Quoi.
Ouais, des pratiques d'arnaque. Ce hashtag influx voleur, vous l'avez vu forcément circuler. Et rien que le mot est intéressant parce qu'effectivement, l'idée derrière tout ça, c'est de faire un distinguo entre, d'un côté, et ce qu'on va tâcher de faire nous ensemble, les key opinion leaders, les vrais influenceurs au sens noble du terme, les influx voleurs. Et Booba, là, il agit un peu comme une sorte d'amplificateur du malaise quand même, qui rôde depuis plusieurs années déjà autour du sujet de l'influence. Et ça, c'est intéressant.
Bah ouais, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, en fait. Hein. C'est quelque chose qui existe quand même depuis maintenant une quinzaine d'années, 10-15 ans, c'est tout ce système-là. Et personne ne s'est vraiment emparé de ce problème-là, sauf que lui, quand il a commencé à en parler, ça y est, il l'a mis un peu sur la place publique. C'est un peu la force qu'il a avec sa communauté et son utilisation des réseaux sociaux aussi, qui est très dans le buzz et pour qu'on puisse en entendre parler. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé le 29 juillet 2022? C'est Libération qui s'est emparé de la problématique, qui a sorti un dossier un petit peu plus poussé avec les petites et grandes escroqueries de plusieurs stars sur les réseaux sociaux en reprenant certains faits, par exemple, dénoncés par Booba et en les vérifiant. Ensuite, on a observé un renforcement des sanctions aussi côté gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui s'est emparé de ça. Face aux arnaques, aux pratiques commerciales agressives portées donc, par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui vise spécialement les escroqueries en ligne. Dit lui-même. Hein.
Et au passage, c'est quand même intéressant de voir que Booba, qui est une personnalité clivante et quand même assez décriée, puisse y compris faire bouger le réglementaire. Donc on voit aussi la force d'influence d'une personnalité comme
Booba. Et le ministre est même d'ailleurs allé sur Twitter pour tweeter que les arnaques en ligne devaient cesser et le gouvernement est résolu à continuer à protéger les consommateurs français en parlant justement de cette nouvelle loi qu'il a mis en place et jusqu'à la semaine dernière et l'émission.
Les annonces aussi qui ont été faites par Bruno Le Maire. Hein, ouais. C'est aussi de dire les sanctions pénales vont être augmentées et on va aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement pour ceux qui sont arnaqueurs en ligne. Hein,
C'est brutal et il y a un vrai durcissement de la ligne de ce côté-là. Et jusqu'à la semaine dernière, du coup, je disais, il y a un complément d'enquête carrément qui est sorti, la fameuse émission sur les influenceurs à Dubaï et particulièrement sur Magali Berda.
Ouais, et cette émission, complément d'enquête, alors là aussi, peut-être que vous l'avez vue, elle a fait énormément de bruit, cette émission complètement de quête. Beaucoup de bruit et elle dénonce surtout un système qui est très cynique et très organisé. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, le reportage joue, on va dire, la carte sensible avec un gros focus sur le rapport des influenceurs français avec Dubaï, la fuite du pays,
la fraude fiscale, etc.
Donc ça, on va dire que c'est un peu pour le décorum, un petit peu choquant. Mais le reportage, surtout, se concentre sur Magali Berda à nouveau et Shauna Evans.
Ouais, ouais, c'est vraiment elles qui sont au centre de ce reportage. On y découvre, comme tu disais, des vies luxueuses à Dubaï. Mais ce qui est intéressant, c'est le système qui est mis en place autour de Magali Berda et de Shauna Evans. Parce qu'en fait, on nous explique que effectivement, Shauna Evans est une grosse agence d'influence marketing, mais qu'elle est détenue depuis quelques années. Alors, je ne saurais plus vous dire la date exacte, mais par une multinationale qui s'appelle Banijay et qui est une énorme entreprise de divertissement qui appartient à un monsieur qui s'appelle Stéphane Courby. Il y a d'autres associés dedans. Hein. On retrouve Cyril Hanouna, Nagui, à l'intérieur, qui ont des petites parts à l'intérieur de cette multinationale. Et dans cette entreprise de divertissement, on retrouve plein de produits différents qui tournent autour justement de ces personnalités de la télé-réalité, puisque c'est une multinationale qui produit des émissions comme Koh-Lanta, Les Marseillais, Les Ch'tis, TPMP. Et c'est autant d'émissions où on retrouve exactement les mêmes personnes qui sont bien sûr dans l'agence de Magali Berda. Donc en fait, c'est tout un écosystème qui a été créé où il y a des émissions télé qui permettent à des personnalités d'acquérir une certaine notoriété. Ensuite, quand ils sortent de ces émissions de télé-réalité, ils sont récupérés par l'agence de Magali Berda qui va travailler leur image en ligne sur les réseaux sociaux et qui va leur permettre de faire du placement de marque. L'agence de Magali Berda prend sur certains contrats, c'est ce que montre le complément d'enquête, 20% quand même de ce que les influenceurs font avec les marques. Des placements de produits, ils en font des milliers dans l'année.
3 par jour, hein, c'est ce qu'on apprend.
C'est ce qu'on apprend. Donc, il y a quand même... C'est presque une usine, hein, le truc. Et en fait, au bout d'un moment, quand ils sont dehors depuis un ou deux ans, dehors, je parle comme si c'était en prison, comme ils sont dehors depuis un ou deux ans avec Magali Berda, on les renvoie dans une autre émission de télé-réalité, ou alors on les fait passer un coup ou deux sur TPMP pour reprendre un petit peu,
ils sont cramés, on les utilise plus, et puis on fait naître une nouvelle vedette. Et ça, ce système, le cynisme de ce système est quand même ahurissant. En gros, l'idée, hein, c'est qu'on a un même acteur réparti sur plusieurs sociétés, mais qui intègre l'intégralité de la chaîne de valeur de l'influence marketing telle qu'on la connaît dans ses côtés sombres, c'est-à-dire je crée une starlette, je la fais passer, je façonne ce personnage, je vais travailler son clivage, je vais travailler ses spécificités. Une fois que je lui ai fait faire suffisamment de télé ou de télé-réalité, je la balance sur les réseaux, elle entretient sa communauté, et puis après de temps en temps je la remets dans un plateau, je la remets sur TPMP, et puis quand elle est cramée, merci, au revoir.
Magali Berda, d'ailleurs, vous avez dû la croiser sur le plateau hein, de TPMP aussi, puisque c'est là qu'elle s'est fait une notoriété un petit peu plus nationale. Et ce qui est intéressant dans le système que tu décris là, Thibaut, c'est que ce n'est pas un système qui est nouveau au final, ce système. On pourrait reprendre des stars de la variété française des années 60, 70, 80, à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Et on prenait souvent des jeunes femmes à qui on faisait chanter des chansons que d'autres avaient écrites, enregistrées par une grosse maison de disques, qui s'occupait de les mettre en radio sur le devant de la scène.
On les mettait
dans les
magazines. Dans
les émissions télé, puis déjà les mêmes émissions télé.
Bien sûr.
On les faisait passer dans des émissions télé où souvent on leur demandait pas leur avis sur des choses très intéressantes, mais juste on les mettait là parce qu'on voulait les mettre en avant pour après les faire passer dans des publicités, les mettre dans des magazines et en tirer d'autres revenus. Donc, c'est un système économique qui a déjà été éprouvé, je dirais, mais qui a été remis au goût du jour, par ces personnes-là, avec aujourd'hui l'influence marketing et les réseaux
sociaux. Avec un problème au bout hein, de tout ça, c'est que ces influx voleurs, hein, comme les appelle Booba, ils poussent des marques cheloues. C'est un peu des panneaux d'affichage aujourd'hui. Hein, et on est très loin de l'influence marketing que nous, on imagine,
chez
Supernatif,
KOL, etc.
Voilà, quelque chose de plus noble, etc. Et effectivement, ce qu'on comprend de ces influenceurs issus de la télé-réalité, c'est qu'en fait, ils ne choisissent pas les marques qu'on leur propose, que personne ne surveille réellement. Tant qu'il y a de la thune, il y a de la thune, et on se retrouve avec des filles et des garçons qui promeuvent des trucs très dégueulasses, qui sont à la limite parfois du recel, en tout cas de l'escroquerie, effectivement, des logiques de contrefaçon, hein, c'est quand même grave, de la promotion de NFT foireux qui sont à la limite du scam, des conseils de trading boursier issus de gens qui n'ont jamais fait de bourse. Tout ça est évidemment extrêmement borderline.
On ne parle même pas des scandales. Il y a des scandales aussi autour de la médecine et d'injections, etc. Dans le reportage, on voit notamment une des influenceuses qui fait partie de tout ça, qui reçoit des injections et qui en fait une infection, qui est du coup hospitalisée aux États-Unis, qui a eu beaucoup, beaucoup de galères aujourd'hui, qui va mieux, heureusement, avec un médecin qui a l'air d'être un médecin un petit peu un bon loulou.
Et alors du coup, eh ben, évidemment, au bout de tout ça, une fois que vous avez regardé Complément d'enquête, une fois que vous avez écouté l'intro de ce long épisode, vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce que c'est la fin de l'influence marketing? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce que finalement la pomme est vérolée et ça ne sert plus à rien? Eh ben, sans doute que non, c'est peut-être même le contraire.
Hein. Bah ouais, c'est tout le contraire. Bien sûr que là, ça fait un petit peu peur tout ce qu'on décrit. On se dit oulala, et quand on est une marque, on pourrait peut-être se dire même, bon, c'est fini, je mets plus un euro là-dedans. Mais attention, comme on le disait, il y a plein d'influence marketing différents et c'est une bonne nouvelle si celui-là, en tout cas, commence à être un peu plus regardé par la répression des fraudes et si on nettoie un petit peu les mauvaises pratiques qui existent là-dedans. D'ailleurs, dans le reportage, Magali Berda, elle est déjà en train d'expliquer que, par exemple, le dropshipping, ça représente moins de 5% de son chiffre d'affaires aujourd'hui parce qu'ils ont fait le tri déjà dans beaucoup de choses. Parce qu'elle aussi, maintenant qu'on regarde un petit peu plus dans ce que son agence fait, etc., elle a beaucoup à perdre et elle a intérêt à soigner un petit peu plus le tri des marques qu'elle choisit pour ses influenceurs. Mais nous, l'influence marketing à laquelle on croit ici, comme on disait tout à l'heure, elle est assez éloignée de ça, puisqu'on pense que quand on est une marque, il ne faut pas aller chercher un influenceur qui fait 3 vidéos publicitaires par jour, qui peut faire de la publicité pour une montre connectée et le lendemain pour une bulle anti-connexion. En fait, il faut choisir des influenceurs, des créateurs de contenu déjà, qui vont vous produire un contenu intéressant et qui vont être dans le scope de votre marque, qui des KOL, comme on dit, des leaders d'opinion dans des communautés à qui vous avez envie de vous adresser. Donc, si c'est pour prendre acheter une audience, comme on le dit ici souvent, faites du social ads,
ouais, parce vous que, embêtez mais pas là, à aller chercher des. T'as raison, parce que c'est exactement ça dont il s'agit, hein. C'est ces personnalités-là. Pourquoi certaines marques sont prêtes à payer des placements de produits? C'est tout simplement pour s'acheter un encart télé, hein, mais sur les réseaux. Donc on n'est pas, pour moi, à proprement parler, sur de l'influence marketing. Bien effectivement, je cherche exclusivement à aller faire de la portée, de la notoriété de marque pure et dure, brute. Effectivement, si c'est ça dont vous avez besoin, faites du social ads avec une problématique. Et c'est bien souvent ça qu'on voit, c'est que tous les partenariats qui sont faits par ces influvoleurs sont justement sur des créneaux qui n'ont pas accès aux social media, qui sont d'ores et déjà bridés. C'est-à-dire que les NFT, ben bof, t'as pas Paris vraiment sportif. Le droit. Paris sportif, c'est interdit et compliqué de faire de la publicité en ligne. Évidemment, tout ce qui est chirurgie, c'est inadmissible et ça ne peut pas se faire. Donc évidemment, ils ont tous pris un autre créneau qui est de dire bah, je ne peux pas faire de la pub traditionnelle sur les réseaux, je vais utiliser ces énormes panneaux d'affichage qui clignotent, qui sont donc ces influenceurs issus de la télé-réalité.
Et en plus, il y aurait des problématiques de faux abonnés. Donc, si vous allez acheter une audience, là, on a une étude de Hype Auditor qui a essayé de donner des proportions hein, par créateur de contenu d'abonnés qui seraient sérieux et puis d'abonnés plutôt suspicieux. Et on remarque que dans la vingtaine d'influenceurs qu'ils ont choisis dans leur étude, bah, c'est tous des créateurs de contenu influenceurs qui sont sortis justement de télé-réalité, qui sont dans cet écosystème. Et on retrouve dans leur base d'abonnés entre 20 pour ceux qui ont la base d'abonnés la plus propre, 20% et 45% d'abonnés suspicieux. Donc, si vous achetez du coup une audience et qu'il y a la moitié de cette audience quasiment qui serait des faux comptes, ça commence à être un peu cher. Quoi. Ouais, bah, ça double le prix.
Tu te dis, je m'achète un espace publicitaire auprès de telle influenceuse qui a 1 million d'abonnés. Imagine que tu en as 45% qui potentiellement sont des faux, hein, sont des bots, sont juste du compteur, voilà. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour l'influence marketing? Nous, évidemment, ce qu'on pense, c'est qu'au milieu de ce joyeux bordel, eh bien, il y a des très bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on remet, on se repose ensemble la question de c'est quoi exactement l'influence marketing? Bah, oui. Bah, c'est pas de la publicité. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment le premier enseignement qu'on peut tirer.
Assurez-vous d'avoir un lien avec l'influenceur qui va parler de votre produit, en fait. D'ailleurs, c'est toute la blague sur la tendinite et vous avez sûrement entendu parler, on aurait aimé développer aussi ça ici parce que c'était très drôle et que c'est une machine à même, mais c'est toute la blague sur la tendinite, c'est de dire en fait c'est des influenceurs qui font de la promotion pour des produits qu'ils connaissent pas et qu'ils n'utilisent pas. Donc trouver des créateurs de contenu qui sont susceptibles de vraiment utiliser vos produits, de les aimer et d'en parler correctement.
Et puis de les mettre en valeur correctement, de créer du contenu à proprement parler sur les plateformes. Ouais, voilà les amis, hein, beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment, la saga n'est sans doute pas terminée, hein, donc peut-être qu'on sera amené à en rediscuter ensemble.
On devrait bien avoir une news du UPCL indien de C4 qui tombe là-dessus.
Mais d'ici là, venez en parler avec nous sur les réseaux sociaux, @supernatif.
Sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, sur Pinterest, on est partout, donc venez en discuter avec nous, on adore échanger de tous ces sujets-là. Sinon, on est aussi le matin, tous les jours en direct à 9h sur Twitch, donc si vous nous écoutez, eh ben, venez, vous voulez en parler. Vous pouvez aussi en parler directement dans le chat de Twitch avec nous. Et si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, eh ben, laissez-nous une petite note, 5 étoiles, ça nous fait plaisir.
Allez, merci à vous tous. On vous souhaite une très, très belle journée. Salut tout le monde. Ciao, bye.
Ciao.